nous allons maintenant nous intéresser, toujours dans la maladie d'Alzheimer, aux jeunes, entre guillemets, à partir de quel âge ? Et on peut applaudir le docteur Chaplet. Merci beaucoup. Donc, à partir de quel âge est-on un jeune Alzheimer ? Quelles sont les difficultés en termes de diagnostic, en termes de prise en charge ? Réponse avec le docteur Hélène Courtemanche, qui est neurologue au Centre Mémoire, Ressources et Recherche du CHU de Nantes.
Bonjour à tous et merci aux organisateurs pour leur invitation. Donc, en effet, je vais vous parler des personnes chez qui la maladie d'Alzheimer arrive avant 65 ans et donc qui ont la particularité d'être des patients jeunes. Et donc l'objectif de ma présentation, ça va être dans un premier temps de vous faire un peu changer de regard sur la maladie, parce que quand ça touche quelqu'un de jeune, ce n'est plus les mêmes problématiques que dans le cadre de la maladie du sujet plus âgé. Et puis de vous montrer que c'est vrai qu'il y a du coup un manque de connaissances et donc un manque de moyens qui découle de ce manque de connaissances pour ces personnes jeunes. Avant de commencer, je vais vous laisser sortir vos smartphones pour ceux qui le souhaitent, pour qu'on fasse un petit sondage dans la salle pour avoir votre représentation de la maladie d'Alzheimer. Donc pour cela, vous êtes invités à participer. Alors il faudrait afficher la diapo de l'ordinateur. Donc ici vous avez le code pour pouvoir vous rendre sur le site menti.com qui vous permet de participer au sondage. Donc c'est 60 45 88 9. Et donc, quand vous êtes prêts, hop, c'est pas ça, c'est pas ça. Pourquoi ça ? Alors, normalement, vous n'avez pas encore commencé à voter. Voilà, c'est bon. Et donc, par rapport au diaporama, il faudrait passer la diapo suivante du diaporama. Voilà. Donc, je vais vous demander, parmi les images qui vous sont présentées, de me dire celle qui représente le mieux la maladie d'Alzheimer pour vous. Alors, le code, il est affiché sur le site Mentimeter.
60-45-88-9.
Merci. Sinon, je dois pouvoir le réafficher. Attendez, je vais le réafficher comme ça. Voilà, il est réaffiché. En petit. Oui, là, je peux vous le mettre comme ça aussi. Est-ce que tout le monde a eu le temps de voter ? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore en train de... Oui. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui votent ? Ah non, je pense que c'est bon, donc je vais pouvoir afficher les résultats. Donc, voilà. Donc, vous pouvez les suivre, les résultats sur les deux panneaux latéraux. Donc, on voit qu'une majorité de personnes a mis l'image de l'arbre avec les feuilles qui s'envolent, donc, qui pour moi en tout cas symbolise les facultés cognitives qui diminuent. Voilà. Donc ça c'est une réalité, en effet quel que soit l'âge. Donc, ensuite, vous avez été 17 à montrer l'image d'une scintigraphie cérébrale. Donc, je pense qu'il fait aussi référence aux méthodes de diagnostic qui s'appuient notamment sur ce type d'imagerie. Vous avez été 14 à montrer les dents qui prend soin de la personne malade. Et ça a l'air de se passer en plus dans la bonne humeur, on va dire, en tout cas dans une bienveillance qui semble être bien vécue. Et à l'inverse, 15 qui ont mis le poids du fardeau, donc sa relation des dents à aider, qui est peut-être la moins bien vécue. Et enfin, donc je m'attendais à plus, parce que la dernière fois que j'ai fait ce sondage, c'était la personne âgée qui est isolée, qui s'ennuie à sa fenêtre, qui était apparue en premier. Donc là, ce n'est pas votre cas. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je vous présente une présentation sur les malades jeunes que vous vous êtes senti inhibé et que vous n'avez pas répondu à cette image-là. Mais donc c'est bien, ça veut dire que votre regard n'a peut-être pas tant besoin d'être changé que ça, puisque vous êtes 7 à avoir fait référence à Still Alice, le film qui est sorti en 2014 avec Julianne Moore, qui incarnait une patiente jeune et qui est un film très réaliste sur la maladie d'Alzheimer jeune. Voilà. Je suis un peu étonnée de l'image de la recherche, qui est là, l'image numéro 12, qui n'a fait voter que 3 personnes. Donc, alors que c'est vrai que la maladie d'Alzheimer, il y a un plein essor dans le domaine de la recherche et des perspectives de traitements médicamenteux, comme l'a illustré Guillaume juste avant moi. Mais bon. Qu'y a-t-il ? Alors, oui, il y a aussi... Oui, bien sûr. Bon. Alors, donc, le but de ma présentation, je vous disais, ça va être d'illustrer que la maladie d'Alzheimer peut toucher des gens jeunes avec des problématiques qui leur sont propres. Donc, je vais vous laisser, un de mes patients, vous présenter comment ces symptômes ont débuté. Donc là, quand je l'ai filmé, c'était en début d'année, il a 63 ans. Mais sa maladie a débuté il y a 10 ans, alors qu'il était encore en activité professionnelle. Bien sûr, il m'a donné l'autorisation de diffuser aujourd'hui cette vidéo. Donc, vous pouvez lancer. Peut-être qu'il faut mettre un peu plus fort.
Dans des réunions que je faisais avec mes clients, c'était moi qui travaillais dans la presse, j'installais des rotatives dans le monde entier, et il y avait des choses qui m'échappaient. Je m'apercevais qu'au niveau des réglages que je demandais à faire à mes collègues, il y avait des choses que je comprenais plus de l'heure de fois. Et la dernière année que je travaillais, c'était il y a maintenant 4 ans, quand je j'affiche par exemple votre convocation, elle était affichée, sa vidéo et tout, c'est écrit sur mon agenda aussi. Je regarde mon agenda tous les jours, et malgré ça, quelquefois je me trompe. Je me trompe dans les rendez-vous.
Voilà. Moi, c'est bon, on peut arrêter la vidéo.
On a déclaré dans la LFDZM, il y a 3 ans. Alors, moi.
Voilà. Et donc, on peut remettre le PowerPoint. Donc, par rapport à cette vidéo, ce qui est frappant, c'est que c'est un monsieur qui sait très très bien parler de sa maladie. Et comme ça, quand on l'entend parler, on a presque l'impression qu'il n'est pas malade. C'est ce que je me suis dit presque, même la première fois que je l'ai vu. Pourtant, il a eu la ponction lombaire, là, dont on parlait juste avant, qui confirme bien qu'il a la maladie d'Alzheimer. Il a authentiquement aussi des troubles de mémoire sur les tests neuropsychologiques. Donc, il a une maladie. Il a un très très haut niveau intellectuel et c'est un monsieur qui avait des très hautes responsabilités. Et je pense qu'il a vraiment réussi à mettre en place des stratégies efficaces pour compenser ses difficultés. Il est également très investi. Je sais pas, vous avez vu, il a son PINS France Alzheimer, donc il est très très investi dans le domaine associatif. Il participe à de nombreux ateliers mémoire et donc je pense que c'est grâce à ça, entre autres, qu'il a par chance pour lui une maladie qui évolue très lentement. Donc voilà, on va parler donc de la maladie d'Alzheimer chez les sujets jeunes, mais avant, qu'est-ce qu'un patient jeune ? Donc on va faire un petit point définition. Il y a 2 définitions en termes d'âge. La définition classique, selon la littérature scientifique, c'est un patient qui débute la maladie avant 65 ans. Et cet âge de 65 ans provient de la littérature scientifique, parce que c'est à partir de cet âge-là que décolle la courbe d'incidence et de prévalence des « démences », entre guillemets, voilà, on n'aime pas trop utiliser ce terme en français. C'est démence qui vient de l'anglais dementia, qui signifie trouble cognitif avec un retentissement sur l'autonomie. En France, on a une définition qui est un peu plus jeune, qui dépend de l'âge d'accès aux prestations sociales. Puisque c'est donc dans ce cas, en France, un patient jeune a moins de 60 ans, parce qu'avant 60 ans, on n'a pas accès à l'allocation personnalisée d'autonomie. Et on n'a pas le droit de rentrer en EHPAD, sauf dérogation d'âge. En revanche, on relève de la maison départementale des personnes handicapées. Par ailleurs, donc il y a 2 âges, et il y a aussi plusieurs maladies d'Alzheimer, parce qu'il y a une présentation classique, donc celle qu'a le patient que je vous ai présenté au début là, du topo, qui a des troubles de la mémoire au premier plan, qui s'installe de façon insidieuse. Il y a également sur les tests neuropsychologiques un déficit précoce des fonctions exécutives, donc qui sont le chef d'orchestre du cerveau, c'est ces fonctions qui nous permettent d'anticiper, de planifier, de raisonner, d'inhiber des informations non pertinentes, de se concentrer. Voilà, donc ces fonctions déclinent aussi rapidement. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'apparaissent les troubles instrumentaux, qui sont le langage, les fonctions visio-spatiales, les fonctions gestuelles, les capacités à calculer. Chez les gens jeunes, donc cette présentation classique, c'est la présentation classique des sujets âgés. Les patients jeunes, ils peuvent aussi avoir cette présentation classique, avec la particularité d'avoir souvent des déficits instrumentaux plus précoces et plus sévères, d'avoir également plus fréquemment des troubles du comportement et d'avoir une très bonne conscience de leurs troubles. Et donc, je vous disais, il y a des présentations de maladie d'Alzheimer parce qu'il y a également des formes instrumentales qui sont plus fréquentes chez les personnes jeunes. Un tiers des cas de moins de 65 ans ont une de ces formes instrumentales, qui sont la forme langagière, la forme comportementale, la forme apraxique ou gestuelle et la forme visuelle. Et chacune de ces formes dépend en fait, de la localisation du processus neurodégénératif dans le cerveau qui peut se focaliser plutôt sur une région stratégique pour une fonction instrumentale. Et le substratum commun de toutes ces formes de maladie d'Alzheimer, c'est la biologie, puisqu'au niveau biologique, les patients ont tous des lésions de type maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire des dépôts amyloïdes et des dépôts de protéines tau qu'on peut détecter par la ponction lombaire ou les imageries fonctionnelles. En France, la maladie d'Alzheimer, c'est la plus fréquente des maladies qui entraînent des troubles cognitifs neurodégénératifs. Ça correspond à près de 1 million de patients. Et parmi ce million de patients, 20 000 ont moins de 65 ans. Vous voyez, c'est une maladie qui reste rare chez les gens jeunes, mais qui représente quand même un nombre de patients qui n'est pas négligeable à l'échelle de la France. Donc la particularité de ces patients, c'est qu'ils ont des formes focales plus fréquentes. Il y a également des formes génétiques qui sont plus fréquentes, puisque dans 10% des cas, on peut retrouver une anomalie génétique autosomique dominante, c'est-à-dire une anomalie génétique qui se transmet de génération en génération, avec un risque de 50% pour chaque descendant, alors que ces formes génétiques sont exceptionnelles chez les sujets plus âgés. Le fait d'être un patient jeune, ça impose un diagnostic précis. Alors, c'est le cas aussi des sujets âgés, mais on va être encore plus exhaustif sur les examens complémentaires chez les patients jeunes, notamment parce que la part des maladies apparentées est plus importante. C'est-à-dire que, certes, la maladie d'Alzheimer reste le diagnostic le plus fréquent chez les gens jeunes. Il concerne 23% des troubles cognitifs neurodégénératifs. Mais la part des autres maladies, c'est-à-dire la maladie à Cordelévy, des maladies des dégénérescences lobaires frontotemporales, sont plus fréquentes chez ces personnes. Et c'est important d'éliminer une cause curable, notamment des causes génétiques, métaboliques, même si ces diagnostics sont rares. Et enfin, la prise en charge est particulière. Donc, on va pouvoir plus facilement leur proposer des protocoles de recherche thérapeutique parce qu'ils ont souvent peu d'antécédents médicaux, ils sont très motivés pour la recherche. Ça en fait des candidats idéaux. Par ailleurs, donc, les aides sociales ne sont pas les mêmes que les personnes plus âgées. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément toujours faciles d'accès. Il peut y avoir des longs délais avant l'obtention du dossier MDPH. Alors que c'est des personnes qui sont dans la vie active, qui travaillent, qui peuvent avoir encore des enfants à charge, et donc pour qui il y a vraiment une urgence de mettre en place un maximum d'aide. Donc, un point rapide sur comment on fait le diagnostic. Donc, avant 65 ans, le retard diagnostique est très fréquent, en moyenne de 5 ans, du fait des atypies de l'âge et de la présentation clinique qui peut être atypique. Et souvent, ces patients, ils errent dans le domaine de la psychiatrie. C'est-à-dire que la moitié d'entre eux ont vu un psychiatre en première intention, parce qu'on a évoqué un burn-out, une dépression. Et d'ailleurs, ils ont eu un diagnostic psychiatrique dans un quart des cas, souvent plus de 2 ans avant qu'on pose le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Ça peut s'expliquer aussi parce que la dépression, ça fait partie du cortège des symptômes qui accompagnent l'entrée dans la maladie, et qui peut même précéder de quelques années les troubles cognitifs. Et ce retard, il s'explique également parce que le diagnostic est inattendu, du fait de la moindre connaissance de la maladie à cet âge. Il est donc moins évoqué par les proches, moins évoqué par les professionnels, le médecin traitant notamment. Et ça va être à l'origine de difficultés à admettre et accepter le diagnostic, le fait que voilà, c'est un diagnostic qui est peu connu, et puis cette errance diagnostique va compliquer un peu les choses. Donc pour faire le diagnostic, le médecin traitant va adresser le patient vers le réseau des consultations mémoire, les consultations mémoire de proximité, et souvent pour les personnes jeunes, il y a un recours qui est demandé au sein des centres mémoire ressources et recherches, au sein du CMDZR que va être proposée la réalisation d'examens complémentaires, qu'on appelle les biomarqueurs. On utilise des biomarqueurs topographiques, que sont le bilan neuropsychologique, donc, c'est-à-dire les tests de mémoire, qui sont faits sur environ une heure et demie avec un neuropsychologue, qui va examiner domaine par domaine tous les champs de la cognition. Et c'est une façon un peu de palper le cerveau. C'est un examen clinique approfondi du cerveau qui va permettre de renseigner sur quelle région cérébrale dysfonctionne. Donc c'est en ça que c'est un biomarqueur topographique. Il va également y avoir prescription d'une imagerie morphologique, donc idéalement d'une IRM, qui permet surtout d'éliminer d'autres diagnostics. C'est-à-dire vérifier qu'il n'y ait pas des lésions vasculaires, vérifier qu'il n'y ait pas une tumeur, vérifier qu'il n'y ait pas une cause inflammatoire qui contribue aux symptômes, et qui permettra éventuellement de voir une atrophie, soit focalisée sur les hippocampes, si on est dans le cas d'une forme classique, ou alors sur une autre région cérébrale, si on est dans le cadre d'une forme instrumentale. Néanmoins, une IRM normale ne va pas éliminer le diagnostic. On utilise également l'imagerie métabolique, donc c'est-à-dire l'imagerie de perfusion, c'est la scintigraphie ou le PET scan, qui permet là d'apprécier le fonctionnement cérébral. Et donc là, on cherchera un hypofonctionnement dans des régions classiques pour la maladie d'Alzheimer. Vis-à-vis des biomarqueurs biologiques, on va utiliser les biomarqueurs du LCS dans la ponction lombaire, qui sera systématiquement proposé chez les personnes jeunes, parce qu'on a vraiment besoin de prouver le processus biologique pour poser, enfin voilà, pour poser un diagnostic, puisque je vous dis, il est plus rare à cet âge-là. Donc on a parlé tout à l'heure de l'imagerie tau et de l'imagerie amyloïde. Donc ce sont des biomarqueurs également, biologiques, mais qui ne sont pas disponibles encore en routine clinique, qui sont utilisés uniquement dans le cadre des protocoles de recherche. Donc, l'annonce du diagnostic chez la personne jeune, je vous apprends rien, il y a différentes représentations de la maladie d'Alzheimer. Si on est un chercheur, un scientifique, on va plutôt penser au processus pathologique, c'est-à-dire aux lésions amyloïdes, aux lésions tau. Si on est un soignant, on va penser à regrouper les symptômes pour faire des maladies, enfin pour identifier une maladie. On va penser au traitement qu'on veut développer, au traitement qu'on veut donner aux patients, à tout le réseau de prise en charge sociale aussi qu'on va pouvoir déployer autour de lui. Et si on est un patient et sa famille, là, on va plutôt entendre une catastrophe. On va craindre le risque de déshumanisation et de stigmatisation. Donc, quand on annonce le diagnostic de la maladie, il faut vraiment avoir en tête toutes ces représentations et surtout celles du patient et de sa famille qui vont vivre cette annonce probablement comme représentée en bas à droite. Donc, d'autant plus que chez le sujet jeune, il y a une souffrance psychologique vraiment importante qui est expliquée par cette bonne conscience des troubles, par le retard diagnostique, qui fait que les hésitations, les doutes du médecin vont être aussi reportés sur le patient et ses proches, qui même à distance de l'annonce vont parfois remettre en cause ce diagnostic, se demander s'il n'y avait pas autre chose à faire, si on n'aurait pas dû aussi le poser plus tôt. Enfin voilà, il y a aussi une souffrance particulière liée à ce retard. Et puis une souffrance liée au fait que la personne est encore en activité parfois, avec une vie de famille, et donc il peut avoir la crainte d'être dévalorisée, d'être abandonné par son conjoint, qui peut être encore en âge d'envisager une nouvelle vie. Donc cette souffrance est importante aussi. Et enfin, la difficulté à l'obtention des aides sociales vient encore rajouter du fardeau à cette maladie. Pour les dents, ce fardeau est également plus important encore que chez le sujet âgé, parce que lui aussi, il a sa vie professionnelle, sa vie familiale. On parle de génération sandwich, c'est-à-dire que les aidants des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer jeune s'occupent en général encore de leurs enfants, s'occupent parfois de leurs parents qui peuvent être aussi malades, et là se retrouvent dans la génération sandwich à aussi s'occuper de leur conjoint malade. Donc avec des répercussions psychologiques importantes, avec la crainte de perdre le conjoint en tant que tel, une remise en question des projets, de la vie de couple, avec l'image des multiples morts du malade, c'est-à-dire de tous ces deuils qui vont être faits au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Les répercussions financières alourdissent encore ce fardeau. Et puis, il y a encore le problème de la génétique et de l'hérédité, c'est-à-dire la crainte de transmettre aussi la maladie aux enfants.
Donc,
oui. Alors, je vous répondrai peut-être, on peut faire un regroupé les questions tout à l'heure, si ça vous va. Oui. Mais oui, je répondrai bien sûr. Alors, donc, au temps de l'annonce, va suivre du coup le temps de la proposition d'un plan de soins personnalisé. Et la particularité de ce plan de soins, ça va être déjà de proposer de la recherche thérapeutique, donc comme par exemple les protocoles d'anticorps anti-amyloïdes ou d'anticorps anti-taux, comme l'a été évoqué tout à l'heure par Guillaume Chapelet. Ensuite, on propose de la stimulation cognitive avec de l'orthophonie, de la réhabilitation cognitive avec les équipes d'ergothérapie à domicile. On peut proposer aussi des accueils de jour, mais qui ne sont pas toujours bien vécus par les patients, parce que souvent la population y est âgée. Alors il y a certains accueils de jour, par exemple à Dreféac, qui est entre Nantes et Saint-Nazaire, un accueil de jour qui a proposé le premier des journées d'accueil jeunes. On encourage une bonne hygiène de vie. Tout ça, c'est valable aussi pour les personnes plus âgées, mais voilà, chez les gens jeunes, on sait que ça fait vraiment partie des conseils très importants. On évalue les risques de l'environnement avec l'implication des équipes d'ergothérapie à domicile. Et puis, c'est important d'évaluer tous les autres risques, comme chez les sujets âgés, pour la conduite automobile, l'autogestion des traitements. S'il y a des chasseurs, essayer de les dépister aussi pour pas qu'ils gardent des armes à feu à domicile. Et se pose aussi la question d'une mesure de protection. Voilà. C'est important d'accompagner les aidants pour dépister l'épuisement. Donc pour ça, il y a des plateformes de répit qui existent, par exemple la Maison des aidants à Nantes, mais ce n'est pas la seule dans le département et dans la région. Et puis les associations de malades aussi qui jouent un rôle très très important à leur côté. Pour les aidants, il y a également un programme en ligne qui vient juste d'ouvrir et qui est accessible à tous, gratuit. C'est le site internet Rhapsody qui propose c'est vraiment une formation avec des chapitres à lire, mais il y a également des vidéos. C'est très bien fait pour pouvoir apporter un appui aux personnes qui s'occupent d'un patient jeune et qui n'ont pas forcément beaucoup de temps pour sortir à l'extérieur, se former. Voilà. Et puis donc sur le plan social, donc ce sont souvent des personnes encore en activité professionnelle dont l'intérêt est vraiment de collaborer avec le médecin du travail pour aménager le poste quand c'est possible. Et puis quand ce n'est plus possible, ensuite il faut envisager un congé longue maladie ou une invalidité. Et l'idée c'est vraiment d'éviter une sanction ou un licenciement. Ensuite il y a toutes les problématiques liées à l'activité de l'aidant, aux enfants. Et donc, sur le plan des aides, c'est la MDPH, je le répète encore, qui va permettre de mettre des aides à domicile avec la PCH, la prestation de compensation du handicap. Quand la maladie est plus évoluée, il y a des difficultés d'institutionnalisation, il y a besoin d'une dérogation d'âge, donc ça va aussi alourdir encore le parcours de ces personnes qui ne sont pas éligibles à l'APA tant qu'elles ont moins de 60 ans. Donc pour les aider, il y a un organisme qui s'appelle la MAIA, qui est la Maison pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer, qui permet d'avoir un référent médico-social, c'est-à-dire une personne qui permet de faire le lien entre tout ce qui est du domaine des soins et ce qui est du domaine de social, également des mesures de protection, sur lesquelles on s'appuie beaucoup. Pour les personnes jeunes qui sont souvent, surtout quand elles sont isolées, quand elles sont dans une situation complexe. Après, l'idée, ce serait vraiment d'aller vers une société plus inclusive, c'est-à-dire une société où on pourrait intégrer ces malades. Et c'est ce qui a été développé en Grande-Bretagne à partir des années 2000 à travers le concept de Dementia Friendly ou Alzheimer Friendly, qui donne des labels pour les communautés où des personnes ayant des troubles cognitifs sont admises, respectées, comprises, soutenues, intégrées, et avec pour objectif de sensibiliser tous les acteurs de proximité pour mieux accueillir ces personnes ayant des troubles cognitifs. C'est-à-dire que la maladie devient vraiment l'affaire de tous, du boulanger au policier, au banquier, au chauffeur de taxi. L'idée, c'est que toutes ces personnes soient à même de reconnaître les symptômes de la maladie d'Alzheimer, de reconnaître quelqu'un qui semble troublé, qui semble perdu, pour spontanément pouvoir lui venir en aide. Et donc, je vous disais, en France, il n'y a encore pas assez de structures qui peuvent accueillir les personnes jeunes. Donc voici la première là, qui a ouvert dans les Landes. Alors ce n'est pas que dédié aux personnes jeunes, mais sur l'ensemble des places, il y en a une quinzaine qui sont dédiées vraiment pour les personnes jeunes. Donc c'est un village où chaque personne a son appartement pour pouvoir vivre de façon indépendante, mais dans un lieu qui est en fait une EHPAD et qui permet d'avoir tous les soins à disposition. J'ai quasiment fini. Ouais. Hop, donc ça, je vais passer. Mince. Hop. Donc, pour conclure, quand, la définition d'une personne jeune, c'est une personne de moins de 60 ans ou moins de 65 ans qui développe la maladie d'Alzheimer, ce qui représente 20 000 personnes en France. Il n'y a pas une, mais des maladies d'Alzheimer. L'annonce diagnostique, elle est complexe chez ces personnes, avec souvent une errance diagnostique. Mais grâce aux biomarqueurs topographiques et biologiques, on a vraiment tous les arguments pour poser le diagnostic avec un maximum de certitude. L'annonce doit vraiment tenir compte du contexte du patient. Il y a des difficultés qui sont posées par les formes génétiques, donc je vais répondre tout à l'heure à votre question. Il y a encore une discordance entre le savoir et le pouvoir d'intervention, mais les progrès scientifiques sont vraiment source d'espoir, avec notamment la aducanumab l'année dernière. Et puis, même si on n'a pas de traitement curatif, on peut mettre en place un plan personnalisé de soins pluridisciplinaires pour alléger au maximum le fardeau de cette maladie et également faire en sorte qu'elle évolue le plus lentement possible. Voilà, et donc c'est une problématique médico-sociale spécifique du fait de l'activité du patient, parfois encore de l'aidant, parfois des enfants en âge scolaire. Il y a peu de structures dédiées et l'accès est très difficile pour les aides. Donc c'est vraiment un parcours du combattant, mais qui mérite vraiment qu'il y ait plus de reconnaissance envers cette maladie pour qu'on aille vers une société tous ensemble plus inclusive qui rendra le quotidien plus facile pour ces malades.
Je vous remercie. Bon, on a pris un petit peu de retard, donc on va prendre peut-être juste deux ou trois questions. Donc, monsieur, vous aviez une question sur la génétique.
C'était pour savoir s'il y avait des tests pour être au courant de la maladie, que ça pouvait être génétique ou pas.
Oui. Alors, donc, les formes génétiques, je vous le redis, c'est vraiment rare, les formes génétiques de maladie d'Alzheimer. C'est moins de 1 cas pour 1000 pour les formes tout venant. Mais chez les personnes qui ont la maladie avant 65 ans et même avant 50 ans, on dit, il y a un risque que ce soit génétique. Il y a 3 gènes qui sont impliqués dans les formes génétiques de maladie d'Alzheimer qui peuvent être testés par le biais d'une prise de sang qui permet de rechercher des anomalies sur ces gènes. Mais ce n'est pas systématique. C'est-à-dire qu'on peut être jeune, avoir une maladie d'Alzheimer jeune et pour autant ne pas avoir du tout une forme génétique. Mais c'est vrai que c'est à disposition. Donc souvent, on dit aux personnes et à leur famille d'en discuter d'abord tranquillement, savoir s'ils veulent ou non faire la recherche, parce que c'est vrai que ça a des conséquences lourdes après pour les descendants. Si on sait qu'il y a une mutation génétique dans la famille, ça veut dire qu'il y a potentiellement un peu un risque pour les enfants.
La maladie d'Alzheimer jeune, il y aura plus facilement des enfants qui auront la maladie d'Alzheimer.
Il y a un risque si on est dans le cas d'une forme génétique. Donc pour le savoir, on peut faire un test génétique. Alors jusque-là, les tests génétiques, ils étaient ouverts que si, enfin ils sont d'ailleurs toujours que ouverts que s'il y a une personne dans la famille qui a moins de 50 ans et qui développe la maladie d'Alzheimer. Donc c'est vraiment très jeune, on est en dessous de la définition du patient jeune. Ou alors s'il y a 2 personnes ou plus qui ont la maladie avant 65 ans. Quand on n'est pas dans ces 2 cas, le risque d'avoir une forme génétique est quand même rare et donc jusque-là, ça ne fait pas partie des indications de recherche. Voilà. Après, le centre de référence des maladies d'Alzheimer jeune est en train de faire un protocole qui est ouvert à toutes les personnes de moins de 65 ans pour participer à cette analyse génétique, pour justement évaluer la fréquence vraiment des formes génétiques dans cette population, et également l'implication des facteurs de risque génétique. Parce que c'est vrai qu'il y a différents... Il y a à la fois les formes génétiques autosomique dominante, avec vraiment une anomalie, c'est-à-dire une faute de frappe sur un gène qui, là, se transmet. Et puis, à côté de ça, il y a tout ce qui est facteur de risque génétique, donc c'est-à-dire des variations sur des gènes, et on sait que, par exemple, le gène APOE, qui est le gène le plus connu comme facteur de risque génétique, on sait que quand on accumule des facteurs de risque sur quand on a plusieurs gènes facteurs de risque, on est plus à risque de développer la maladie, c'est un peu un cocktail de mauvais facteurs, mais là, dans ce cas-là, c'est pas transmissible de génération en génération.
Alors, si c'est clair. Docteur Courtement, je vous demandais si c'est possible de répondre très brièvement aux questions suivantes, parce qu'on a déjà beaucoup dépassé le temps de cette intervention, mais on me pose une question à propos du recensement des malades jeunes qui date de 2005. Est-ce qu'il y a une étude plus récente, d'autres chiffres ?
J'en ai pas. Mais
non.
Ouais. Peut-être pas à ma connaissance, il y a peut-être, mais je n'ai pas.
Autre question, c'est sur le dispositif Maya. Aujourd'hui, les aidants ont peu d'accompagnement pour souffler. Des solutions sont-elles explorées? Mais je me demande si on ne va pas y revenir tout à l'heure au dispositif Maya. Donc, je propose quand même.
Après, j'ai juste une réponse brève. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de structures. Donc là, actuellement, ça fait l'objet d'un groupe de travail au sein de l'ARS des Pays de la Loire, justement pour pouvoir développer des solutions dédiées pour les personnes jeunes.
Donc, voilà. Et sur Nantes, est-ce qu'on a une idée du nombre de patients jeunes et éventuellement
J'ai pas le chiffre. Après, non. Nous, en consultation mémoire, on en voit régulièrement, mais j'ai pas de chiffre précis.
Environ 1200 sur les Pays de la Loire. D'accord.
Merci.
Bon, je vous remercie beaucoup, docteur Courtemanche, pour cet exposé sur les patients jeunes.